Ben ouais, c'est ça. C'est pas plus, non, exactement. On pourrait dire que ce n'est plus du co-développement en soi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant et que ça ne va pas aider à favoriser une démarche d'intelligence en collectif. Moi, je pense qu'il est en train de se créer certaines écoles. Malheureusement, le co-développement se veut plutôt inclusif, mais je pense qu'il est en train de se créer au moins, en tout cas, au moins deux écoles. C'était une idée où je me suis dit que comment est-ce qu'on pourrait utiliser différemment maintenant cet espace à distance. On l'utilise quasi uniquement sur le modèle de la réunion classique que l'on tient en ligne. Alors, je me disais, il y aurait-il d'autres façons de faire?
Bienvenue dans le podcast Les Intelligences Collectives. Je suis Sophie Franz, l'heureuse hôte de ce podcast créé pour tous ceux qui veulent améliorer, le faire et vivre ensemble. Aujourd'hui, joie et bonheur, je reçois Claude Champagne, qui n'est autre que celui qui a créé en 1997, avec son homologue québécois Adrien Payette, cette méthode d'intelligence collective que l'on voit un peu partout, le co-développement. 25 ans après, il revient avec un nouveau livre sur ce sujet. Il est aujourd'hui sur le podcast pour nous parler de cette sortie et répondre entre autres à la question que vous, chers auditeurs, aviez sur les lèvres. Et ce format d'atelier, est-ce du codev ou n'est-ce plus du codev? En plus de cela, il nous partage aussi, dans cette interview, sa vision des évolutions probables du co-développement, les points d'attention pour mieux réussir à s'entraider dans les cercles, les différences entre le Québec et la France. J'ai osé ici lui parler du business du co-développement et il m'a répondu de manière complètement transparente et passionnante. J'ai adoré avoir cette chance de l'interviewer. Les premières minutes de l'interview sont croustillantes. C'est un homme humble et drôle que j'ai rencontré et avec qui je vous laisse avec un plaisir non dissimulé. Belle écoute à vous! Bonjour Claude!
Bonjour!
C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Je dois dire que j'ai crié de joie quand tu as accepté mon invitation. Je suis vraiment super contente. Tu es un peu une légende quand même pour nous dans le milieu de l'intelligence collective. Donc, je suis super heureuse que tu aies accepté. Je te dis un grand, grand merci pour ça.
Ça fait plaisir.
Ça fait super plaisir. Je te disais, je commence un peu les interviews avant de parler, bien sûr, du co-développement. Je commence l'interview avec ce que j'appelle des inclusions sonores. L'idée de l'inclusion sonore, c'est je te propose trois sons et une petite question. Et ce qu'on aimerait faire, c'est tu choisis un de ces trois sons et tu nous réponds à la petite question que je te pose. Ce que je voulais voir avec toi, je crois ou je sais qu'il y a une relation assez forte avec la France, entre toi ainsi que le co-développement et la France. Je vais te proposer trois sons et que tu nous donnes un peu ou une anecdote ou un souvenir ou quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas sur la France. Est-ce que ça te va?
Allez, allons-y.
On va tester ça. C'est parti. Son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3. Et ce qu'on souhaite savoir, c'est s'il y a un de ces trois sons qui te parle, avec lequel tu pourrais nous partager quelque chose sur la France.
En fait, les deux premiers surtout. Le premier concerne, tu choisiras de conserver ou pas cet extrait par la suite dans ton podcast. Le premier, lors de mon premier voyage en France, à Paris, j'avais 18 ans. J'étais impressionné par le nombre de crottes de chiens qui traînaient dans la rue et de morceaux de tapis qui servaient à acheminer l'eau vers les caniveaux. J'avais vu une publicité où on voyait un chien avec une flèche qui partait de son anus montrant que le déchet devait être acheminé dans lequel niveau. J'avais été assez impressionné. J'étais revenu en disant « Montréal, c'est la ville des 100 clochers, mais le Paris, c'est la ville des 100 ans. »
OK.
Bon, tu vois si tu conserves cet extrait.
Je conserve.
Le deuxième, le son de foule, c'est il y a quelques années, pas si longtemps, il y a 4 ou 5 ans, c'était à Marseille, un événement organisé par un groupe qui s'appelait Codev in Med, okay. Où il y avait la foule qui était là. Et j'ai vraiment pris conscience, il y avait 125 personnes qui étaient là, et j'ai vraiment pris conscience de l'intérêt, en vrai, en physique, des Français pour le co-développement par la présence de cette foule qui était très, 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 très animée, très, très intéressée.
Génial. C'est en quelle année, peut-être?
Oh, ça fait 4 ans, 5 ans.
5 ans, OK.
Et il y a un attachement, c'est vrai, très grand avec la France. Et d'ailleurs, vous nous avez fait prendre conscience, à Adrien Payette et à moi, que Payette et Champagne, c'était festif. Certains Français nous disaient, ça se peut pas, c'est inventé comme nom. Là, mais c'est du marketing. Mais non, ce sont nos vrais noms dont on n'avait pas pris conscience de la dimension festive en les jumelant comme ça.
Ah, génial. Payette et Champagne, donc c'est les Français qui vous ont mis le petit doigt sur, sur la fête. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je vais rebondir justement sur, tu disais il y a 4 ou 5 ans, donc cette idée de foule en France où justement on se rend compte qu'il se passe un truc autour du Codev. Moi, j'ai regardé ton parcours et je voulais parler rapidement de ça, de l'activité professionnelle. Et c'est vrai que j'ai été assez étonnée, tu me diras si je me trompe, hein, j'ai vu ça sur LinkedIn, de voir que jusqu'en 2015, tu étais ou adjoint ou conseiller dans des centres de santé, de services sociaux, et que seulement à ce moment-là, il y a eu un switch, je pense, j'ai l'impression, sur une pratique plus de consultant en co-développement. Comment ton activité a évolué depuis 1997, la première sortie du livre?
Oui, mais en fait, j'ai jamais été investi à temps complet dans le co-développement, si on D'accord. peut dire aussi. J'ai toujours été un praticien-chercheur, et dans ma pratique, j'utilisais le co-développement, parfois plus intensément à certains moments, parfois un peu moins certaines années, ou selon les emplois que j'occupais. J'ai été présent autour du co-développement et de la communauté qui s'est créée tout le long depuis les débuts du co-développement, mais jamais investi comme un consultant. Et en fait, si je le suis maintenant, c'est parce que j'ai pris ma retraite du réseau de la santé et des services sociaux il y a 6 ans et que j'avais plus de temps de disponible pour m'investir dans le co-développement, tout en reconnaissant aussi que, bon, parce qu'Adrien a terminé, lui, sa présence académique, il a pris sa vraie retraite, il est totalement retiré. J'ai aussi une responsabilité de continuer à m'occuper du bébé du co-développement. Alors, ça pourrait être le lien avec le troisième son que tu nous as fait, de l'enfant qui babille.
Qui rigole, ah, génial, super. Et du coup, aujourd'hui, tu es consultant, tu animes des groupes?
En fait, moi, je fais un peu de consultation ici et chez vous en France, surtout. Mais c'est pas une activité principale. Je suis un quasi-retraité, assez actif, je dirais. Et par ailleurs, ces 2 dernières années, je me suis investi dans l'écriture d'un livre sur le co-développement, ce qui m'a quand même passablement occupé aussi.
J'imagine, oui. Bah, justement, j'allais parler du livre, hein. C'est pour ça que j'ai la chance de te recevoir aujourd'hui, je suis vraiment contente. Si je ne me trompe pas, il est sorti en France en 2021, là, cette année. Hein,
oui, en mai. En mai. Ouais.
En mai 2021. Une question que je me pose, l'intention, alors tu en parles un petit peu dans le livre, mais est-ce que tu pourrais nous exprimer l'intention de ce nouveau livre, justement, par rapport au livre de 1997?
Oui, il y en a plusieurs, en fait. L'intention initiale, c'était de rappeler les fondamentaux du co-développement, voyant qu'il y avait plusieurs pratiques qui se développaient en France, incluant des formes parfois un peu dogmatiques, un peu fermées de l'approche. Et j'entendais des gens me dire parfois, ah ouais, on peut faire ça, c'est permis de faire des trucs, alors que c'est pas un système breveté, fermé, et voilà, donc c'était pour moi cette première idée de réouvrir sur les possibilités que pouvait permettre le co-développement, de faire le lien avec des méthodes parentes et voir comment elles pouvaient se nourrir mutuellement. C'était aussi une façon pour moi de tenter de reconnaître le nombre de personnes nombreuses qui ont contribué à faire avancer le co-développement en y réfléchissant dans l'action et dans la pratique. Malheureusement, ça, j'ai pas réussi à le faire totalement parce qu'il y a quand même pas mal de personnes, et puis il y a des gens peut-être que je connais pas aussi qui ont fait des choses formidables en co-développement et puis dont on aurait aussi pu parler. Et puis, c'était pour moi aussi une occasion, après 25 ans, de refaire l'exercice, de revoir un peu ma propre théorie, si on peut appeler ça ainsi, et de reposer mes bases et de continuer ma propre réflexion sur le sujet. Ce que d'autres personnes peuvent aussi bien faire, chacun à leur façon, mais je pense que 25 ans après, c'était pas inutile de refaire le point, et en espérant que ça suscite de nouvelles conversations, de nouvelles discussions sur le sujet.
Super.
Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Et pour moi, le faire aussi en France, c'était que notre premier livre n'était pas si facilement disponible que ça. Donc, chez un éditeur français, je suis convaincu que ça va être plus facilement accessible.
Facile. D'accord.
Et pour moi, c'est aussi une occasion d'aller vers vous, d'aller vers vous en termes de possibilités d'échange, de vous rencontrer, de vous visiter, de créer des nouveaux liens, parce que ça sert aussi à ça, le co-développement, de faire des connexions. J'essaie d'en profiter.
Bah écoute, on est content. Et moi, je suis heureuse de créer des liens. Je vais revenir justement à ce que tu disais au début, forme dogmatique. Alors, j'ai fait un petit post pour dire que je te recevais. Et c'est marrant parce que même à chaque fois que je parle de ça, on me dit « Ah, bah, tu pourras lui demander si on a le droit de faire ça. » C'est vrai que c'est une des premières questions qu'on me posait. Est-ce qu'on a le droit de faire du flash codev? Est-ce qu'on a le droit de faire de l'express, etc. Donc, je pense que c'est une vraie question qu'on se pose et que j'aimerais te poser. Mais est-ce qu'avant ça, tu peux nous redonner un peu ta définition du codev, justement, du co-développement, c'est quoi pour toi?
Oui, je ne dirais pas dans la définition compliquée, mais simplement, il s'agit de nombre réduit de personnes, généralement de 4 à 8 personnes qui croient qu'elles peuvent apprendre ensemble et s'entraider et qui se créent un contexte pour y arriver. Bien sûr, accompagné par un animateur là, ou un facilitateur, comme on dit souvent, pour faciliter le processus. Et ces personnes se donnent généralement une structure, un scénario d'enquête, d'entraide qui est séquencé en étapes, qui permet de travailler à partir d'un sujet, d'une personne à la fois. Donc, c'est une approche centrée sur la personne, sur le client. Dans le groupe du co-développement.
Alors, j'ai fait un épisode, tu le sais, hein, avec Gilles Chacherer, et du coup, j'invite aussi des gens avec les différentes étapes à écouter cet épisode où on parle peut-être plus de la pratique technique. Mais...
Voilà, c'est très bien détaillé dans cet épisode, en effet. Et donc, autour de cet exercice qui permet de travailler à partir du sujet que porte une personne, l'ensemble des participants vont aussi apprendre de l'échange qu'ils auront. Bien sûr, sur la façon d'aider, de s'entraider, et aussi à partir du sujet, comment ils résonnent dans leur propre pratique. Parce que tout ça doit aussi s'inscrire dans une démarche, idéalement, qui est un peu plus de perspective et qui est associée à la quête de chacune des personnes qui veut s'améliorer dans son domaine, dans sa pratique, dans son fonctionnement. Mm-hmm. Parce que le co-développement vise essentiellement une pratique un peu plus consciente, un peu plus efficace, un peu plus autonome, connectée avec son milieu et ses pairs, et peut-être aussi un peu plus responsable.
Ok, du coup, on est là dans la pratique consciente et autonome. On va parler des formats, mais je pense que ça va aussi répondre à une partie des questions sur ce format. Dans ton livre, tu parles de la différence entre réflexion et démarche réflexive, justement pour aller un peu plus loin que de la pensée réflexe. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations là-dessus au sein du co-développement, comment ça se passe?
Oui, mais en fait, pour expliquer simplement, la réflexion, c'est tout le processus cognitif intérieur que l'on a sur un sujet, la conversation que l'on a avec soi-même, les morceaux que l'on met, que l'on décompose, que l'on analyse, etc. Et la pensée réflexive, c'est de se regarder aller dans ce processus. De se voir aller dans ce processus. Okay. Donc, cette capacité, on parle souvent de se mettre en mode méta, donc qui réfléchit sur la réflexion. Donc, c'est obtenu en co-développement par des moments d'arrêt, des moments de silence, des moments de questionnement sur ce qui est en train de se produire ici et maintenant pour dégager des observations, des apprentissages d'un autre niveau, d'une autre nature.
Est-ce que ça, c'est... Vas-y.
Oui. Je dirais, la première vertu du cours de co-développement, c'est d'encourager justement le temps d'arrêt et la réflexion avec des pairs, mais aussi d'encourager cette réflexivité pour un peu mieux comprendre ses paradigmes, ses modèles, ses schémas d'action, tout simplement.
Alors moi, je n'ai pas lu le livre de 97, mais est-ce que là, il y a une évolution par rapport à la version 1 de 97, où justement, dans ce livre, tu parles de moments réflexifs, d'inclure peut-être de façon plus consciente l'écriture réflexive, de moments d'arrêt, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettiez autant en avant en 97, ou c'est une évolution aussi avec
ça? Non, on le mettait autant en avant, sauf que dans le volume de 97, c'était un peu plus ciblé, je dirais, à la fois sur des principes généraux, puis sur des éléments techniques. Mais centré exclusivement sur le groupe de co-développement, sur la pratique de l'exercice de consultation. Alors qu'il y a des éléments périphériques qui étaient évidents pour nous, sur lesquels nous n'avions pas véritablement insisté, et que j'ai souhaité rappeler. Parce que pour plusieurs personnes, le groupe de co-développement, c'est souvent une méthode en étapes,
ouais.
une séquence de consultation, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a vraiment un espace à mettre en place, un espace réflexif conjoint à mettre en place. La technique, par la suite, vient faciliter la conversation avec soi et avec autrui, mais cet espace qui doit être mis en place est crucial. De même que les autres éléments qui permettent de continuer dans sa réflexion, sa réflexivité comme praticien chercheur dans un domaine d'activité, peu importe celui qu'il est. Donc, ramener aussi à ses intentions, ramener à son projet et voir comment cet exercice s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus large. Et alors, le livre aussi a permis, excuse-moi, de rappeler certains fondamentaux à cet égard, et incluant aussi au plan historique là, nos sources que j'ai tenté de rendre encore plus explicites autour des travaux de Kurt Lewin ou de l'école du pragmatisme, en fait, qui finalement, sans qu'on l'ait véritablement bien noté la première fois, nous ont quand même très grandement influencés.
Et est-ce que dans le livre, il y a aussi les fiches actions, je crois? Est-ce que c'est aussi pour aider vraiment plus dans la réflexivité, pour aller plus loin dans cette démarche-là? Je pense par exemple au cadre, je pense à... il y avait des fiches actions sur l'intention, ce genre de choses. Est-ce que c'est pour aller aussi plus loin dans cette démarche-là?
Exactement. Il y a les deux. Il y a des éléments conceptuels puis des éléments très pratico-pratiques dans l'ouvrage. J'ai tenté de trouver un équilibre entre les deux. Par contre, je n'ai pas réussi à aborder la pratique avant la théorie. Donc, pour moi, il était important de mettre en place le contexte avant de parler du cours de co-développement de façon très pratico-pratique. C'était un défi que je n'ai pas réussi à relever de parler vraiment de la pratique en premier et ensuite d'expliquer sur quoi c'était, en quoi ceci s'appuyait sur autre chose.
Okay.
Donc, j'étais dans une logique plutôt traditionnelle pour aborder le lien entre la pratique et les concepts.
D'accord, ok. Et du coup, quand on a dit ça, alors moi, j'entends un peu, tu vois, le temps un peu plus long, enfin, le temps long, là, peut-être ce que je lisais dans ce que tu écrivais, j'ai bien aimé cette réflexion autour de l'écriture inclusive, notamment, et ces temps d'arrêt, et peut-être même l'inclusion, t'en parles à un moment dans le livre, peut-être plus sur le ICODEV, on en parlera après. Mais est-ce que, alors pour venir au format, est-ce que justement, quand on entend ça, est-ce qu'à un moment, on peut se dire qu'il y a des formats qui ne sont pas en niveau du temps, qui ne sont pas dans le co-développement et d'autres qui y sont quand même? Ou comment est-ce qu'on répond à cette question alors? La question que tout le monde se pose.
Exactement, elle n'est pas facile à répondre à cette question parce qu'en fait, le temps est précieux, il fuit, ça dépend comment on veut l'investir, mais c'est sûr qu'une démarche en co-développement nécessite de ralentir, nécessite de prendre le temps. Le plus on en aurait, le mieux ce serait. Il y a par ailleurs des formats optimaux, je pense, auxquels on peut référer, qui peuvent être tout à fait favorables à une démarche intéressante. C'est pour ça que dans le livre, j'essaie de distinguer peut-être trois formats variés, puis pas complètement cloisonnés. Un co-développement, je dirais, habituel, normal, standard. Un co-développement avancé puis un co-développement plus léger. Je dirais que les formules rapides sont de nature plus légère. Elles ne permettront jamais d'obtenir le même genre de résultat qu'on va obtenir dans un co-développement normal ou très, très avancé qui, faut le reconnaître, est réservé à peu de personnes, finalement. C'est pas grave parce que la formule médiane est tout à fait intéressante, acceptable et très, très, très riche. Donc, dans le co-développement plus léger, mais là, c'est sûr que ça dépend des conditions dont on dispose, du temps dont on dispose, de l'énergie qu'on veut y mettre. Mais moi, je ne lèverai pas le nez sur des méthodes qui permettent d'être un peu plus efficaces dans nos conversations, d'aller un peu plus loin, de créer un peu d'intelligence collective, même si elles ne le font pas autant qu'un co-développement standard.
OK.
Donc, contrairement à des personnes qui disent,
Dogmatique.
je préfère dire que le co-développement, ce n'est que le format standard et que le reste n'est vraiment pas du co-développement, moi, je suis un peu moins radical que ça là-dessus.
D'accord. Du coup, si on est sur un format, comme tu disais, léger, alors dans le tableau, tu mettais moins de 45 minutes, bon, apprentissage en boucle 5, donc boucle simple, etc. Et qu'on te dit, je fais du codev, toi, t'es pas à dire, non, non, c'est pas du codev. On peut...
Écoute, moi, je me suis déjà fait dire que ce que je faisais était du fast codev, comparativement à des personnes qui faisaient des séances, soi-disant, en 3 heures. Mais okay. lorsqu'on est gratte un peu, on se rend compte que finalement, quand on compare, on compare peut-être 1h30 et 2h, ce qui n'est pas une si grosse différence. Bien sûr, en prenant plus de temps, on peut peut-être approfondir plus de sujets, mais aussi on fatigue un peu plus le client, il se retrouve un peu noyé dans davantage d'informations.
OK.
Et la démonstration n'est pas véritablement faite que c'est si efficace que ça de prendre davantage de temps. Peut-être aussi, il y a peut-être un élément culturel. Entre la France et l'Amérique, où on est plus pragmatique, souvent en Amérique, on va aller davantage vers l'action, vers des solutions, alors que vous êtes souvent un peu plus dans l'analyse et aussi dans le débat. Parce que moi, un élément que j'ai eu à travailler beaucoup en travaillant avec des Français, c'est dans une des étapes, qui est celle de l'échange, l'étape 4.
4, ouais.
J'encourage à la synthèse et je décourage le débat entre les participants.
D'accord, OK.
Chez les Français, c'est parfois contre-culturel de proposer cela. On voit par ailleurs assez rapidement le bénéfice pour le client et on apprend ensemble des choses. Mais donc, de réduire le débat, ça réduit aussi le temps nécessaire pour cette étape.
Ok, d'accord. Donc toi, dans ton livre, enfin, ce que tu dis, c'est que le groupe courant, si j'ai bien noté les choses, c'est environ 60 à 90 minutes. Ça, c'est à peu près le format
à peu
moyen.
Près, voilà. Ouais. Moi, je pense qu'on peut faire une séance qui se tient bien en 1h15, 1h30. Au besoin parfois en 1 heure, mais bien sûr on peut avoir besoin d'un petit peu plus de temps ou un peu moins, mais ça devrait pas être le comment dire l'élément le plus important à regarder. L'important, c'est de bien créer le contexte, de créer la relation entre les participants, de s'assurer qu'on est à l'aise pour travailler ensemble, ensuite de se donner des ambitions à la hauteur des moyens que l'on va se donner. Quelqu'un qui voudrait arriver avec un sujet qui a déjà tenté de traiter dans 15 contextes différents avec des équipes d'experts et qui n'a pas réussi, ça ne fera pas une grosse différence entre traiter son sujet en 90 minutes ou 120 minutes. Bien sûr, on va voir avec lui quels sont les morceaux de sa pratique sur lesquels il va vouloir travailler ici et maintenant. Et il y en aura d'autres qui seront mis de côté. Okay. Par contre, là où je suis tout à fait, inconfortable dans les formules courtes, c'est lorsqu'elles sont très, très séquencées, qu'elles ne comportent pas du tout de souplesse pour passer d'une étape à l'autre, qu'elles ne s'inscrivent pas dans le temps de plusieurs rencontres avec un même groupe. Parce que le co-développement, ce n'est pas qu'une seule rencontre, c'est vraiment une séquence qui se construit, une dynamique, une relation qui se construit avec les participants dans le groupe, qui approfondissent de plus en plus leur façon de réfléchir ensemble et de s'entraider. Alors, les formules très, très courtes qui ne seraient pas dans la continuité, mais c'est vrai que c'est autre chose.
D'accord. Quand on n'est pas dans la continuité, par contre, là, a priori, pour toi, et ce n'est plus du co-développement.
Non, exactement. On pourrait dire que ce n'est plus du co-développement en soi, okay. mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inintéressant et que ça ne va
Tout
pas aider à favoriser une démarche d'intelligence en collectif.
Collectif, oui. C'est autre chose, quoi. D'accord, c'est intéressant. C'est vrai qu'on voit dans votre démarche depuis le début, hein, vous n'avez pas déposé de marque. Enfin, c'est vraiment quelque chose quand même qui est ouvert, hein, qui est amené à évoluer et que vous êtes pas, vous acceptez l'évolution, quoi.
On n'a pas déposé de marque, on n'a pas vraiment formé officiellement des animateurs. On a souvent accompagné des gens, mais sans faire de programme de formation formel menant à une accréditation officielle. Et je comprends qu'en France, il y a des enjeux différents de ce côté-là, parce que vous avez des structures de gestion des programmes de formation qui sont différents de ce qu'on connaît ici.
C'est-à-dire, on est plus. Est-ce que ça veut dire que en France, on formerait plus les formateurs officiellement que chez vous
Bien, vous avez des organisations qui visent à respecter des processus pour la formation, des mécanismes d'accréditation qui sont associés aussi parfois à la recherche, à l'obtention de subventions pour favoriser la formation des participants. Dans les cursus, il y en a certains qui, de ce que j'ai vu, qui reconnaissent les acquis initiaux et d'autres qui ont l'air d'être une proposition mur à mur, je m'explique. Quelqu'un qui arrive en co-développement, qui a déjà une formation de coach ou qui est formateur ou enseignant ou psychologue, n'aura pas les mêmes besoins pour devenir un animateur certifié que quelqu'un qui arrive dans le métier, qui a une pratique peut-être minimale dans le domaine. Alors moi, je pense qu'il faut adapter les cursus en fonction du profil et des besoins des participants, ce qui ne se fait pas toujours.
Ouais. Et là, vous laissez votre chance. Vous êtes aussi assez ouvert dans cette pratique-là de l'animation. Il y a la fiche outil, il y a bien un cadre, etc. Mais il n'y a pas de... si tu n'es pas accrédité, tu ne peux pas animer, quoi. C'est vraiment... D'accord.
Okay. Mais il faut pas, ça ne veut pas dire que par ailleurs que n'importe qui peut se décréter animateur et que ça se fait n'importe comment. Il y a quand même un bon nombre de principes à respecter, une capacité de suivre les processus de groupe, de gérer les zones qui peuvent être un peu plus dangereuses au sein des groupes, mais sans en faire une obsession, sans se centrer uniquement là-dessus. D'ailleurs, dans le livre, je propose un profil de compétences assez détaillé sur des gestes clés à poser à chacune des étapes, une façon de créer le contexte, tout en ne rentrant pas dans tout le détail de ce que c'est que d'accompagner un groupe et un processus d'apprentissage. Mais il y en a quand même déjà pas mal. Et l'idée, c'est pas d'en faire un outil définitif, mais c'est plutôt pour une façon d'amorcer la conversation sur les gestes à poser chez l'animateur.
Ok, je me pose une question un peu peut-être crue, mais il y a un business autour du co-développement, tu trouves? Ouais, d'accord.
Ouais. Il y a un bon business en France en particulier. Ici, au Québec, je parle plutôt du Québec là, pour parler de l'Amérique. Ici au Québec, c'est pris en charge par une association à but non lucratif. Il y a des gens qui font un peu de business autour de ça, mais c'est beaucoup moins... lucratif que ce l'est actuellement, ce que je vois actuellement en France.
D'accord, ok. D'où peut-être, on verra, des dogmes justement qui se posent, et j'ai compris.
Moi, je pense qu'il est en train de se créer certaines écoles, malheureusement, le co-développement se veut plutôt inclusif, mais je pense qu'il est en train de se créer au moins deux écoles.
Des écoles de co-développement, c'est ça?
Oui. Mais pas des écoles de pensée plutôt.
Écoles de pensée différentes sur cette méthode de co-développement.
Je pense que oui. Ouais.
Tu veux nous en dire c'est quoi les directions?
Ben, sans rentrer dans le détail, je pense qu'il y a certaines orientations qui se veulent je porte à dire fermé.
Dogmatique?
Je ne sais pas. Bien sûr qu'ils ne se définiront pas comme ça, mais respectant certaines règles de façon assez rigoureuse, pour ne pas dire rigide, mais dans un but d'une professionnalisation de la pratique et de s'assurer de la qualité de la pratique, alors que d'autres vont plus miser sur les possibilités, les hybridations avec d'autres techniques et sont moins centrés sur les risques qui peuvent être associés à la pratique du co-développement. Okay. Parce qu'honnêtement, personnellement, bien sûr, il pourrait y avoir des cas difficiles, des cas litigieux, mais j'en ai pas vu beaucoup dans ma pratique personnellement.
Intéressant.
Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir des garanties à 100%, comme par exemple lorsqu'on va dans le bureau d'un consultant, d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat, il y a des règles déontologiques qui s'appliquent, entre autres en termes de respect de confidentialité, qui est un élément important aussi que l'on tente de mettre en place dans un groupe de co-développement pour créer un climat de confiance. On dit que ce qui se passe dans le groupe va devoir rester au sein du groupe. Et moi, je vais toujours chercher un engagement, même sur l'honneur, auprès des participants pour s'assurer qu'on respecte ça. Et on se le rappelle dans le temps. Et ceci dit, Il pourrait arriver des bris de confidentialité dans le temps qu'il faudrait voir comment on pourrait les traiter, mais ça serait assurément pas de la même façon que c'est fait avec des gens qui sont membres d'un ordre professionnel.
D'accord, ok. Et du coup, ouais, ok, j'ai compris. Du coup, peut-être les deux, y a des petits risques et on peut vraiment peut-être fermer, mais finalement, pour éviter les risques, on risque de trop fermer. En tout cas, c'est une réflexion
Exactement. Tout
qu'on
à
peut se
fait, oui.
poser. Ok,
Exactement.
ok, ok. J'avais encore un angle que je voulais voir avec toi dans le codev, dans la pratique du codev. Alors, on sait que c'est tourné vers l'action, mais ce que j'ai lu que je trouvais super intéressant, parce que j'ai fait quelques cercles, enfin j'ai participé à un cercle de codev en tout cas, et je trouve qu'on a souvent cette tendance quand même de rechercher la vraie raison. Et je voulais voir avec toi la relation entre le code développement et le dev perso. Et ce que j'ai lu m'a fait un peu du bien, parce que des fois j'ai cette l'impression que justement, nous, en tant que consultants, on est aussi là pour rechercher la vraie question, dénoncer les croyances limitantes, essayer d'aider le client à vaincre ses résistances. Et dans le livre, tu dis que c'est pas ça, c'est plutôt tourner vers l'action et vers le futur désiré, hein. Est-ce que tu peux
Ouais.
nous réexpliquer ça? Parce que j'aimerais bien le réentendre de ta part, hein, de ta bouche.
OK. En fait, c'est un peu un choix, mais un n'empêche pas l'autre. Mais je mettrai l'opposition je montrerai l'opposition en évoquant deux mots. On peut être dans le pourquoi en un seul
Ouais.
mot ou pourquoi en deux mots. Moi, je propose d'aller vers davantage le pourquoi, donc de façon plus pragmatique.
En deux mots, hein.
C'est ça, et de regarder les solutions, à partir bien sûr d'une certaine analyse, mais de regarder des solutions pour être porté vers le futur. Alors que le pourquoi nous amène à être davantage porté sur le passé, de comprendre ce qui s'est passé auparavant, et en misant peut-être ensuite sur l'idée de travailler à partir de là. À la limite, c'est toute la différence en thérapie, c'est toute la différence entre la psychanalyse puis l'approche centrée sur les solutions, qui sont deux méthodes
Tout à fait.
de thérapeutiques assez opposées, qui visent les mêmes buts, ultimement, mais dont les prémices et le fonctionnement sont tout à fait différents. Et voilà, donc moi je propose d'aller plus vers des approches centrées vers l'action, à partir de solutions, mais qui sont un peu des solutions, il faut les voir un peu comme des prototypes, des choses que l'on teste par ailleurs dans la réalité. Il s'agit pas d'aller dans le sens de dire un problème, une solution, un problème, une solution. D'ailleurs, j'ai entendu des gens qui font la promotion du co-développement en disant déjà, vous arrivez avec des problèmes et vous partez avec des solutions. C'est pas ça non plus.
D'accord.
On peut arriver avec des problèmes ou avec des sujets que l'on traite avec des personnes. On a regardé peut-être ensemble des solutions, mais on est responsable par la suite de voir ce qui nous convient dans le panier qui est proposé et ça, à partir de quoi on va aller vers l'action par la suite.
Ok. Bon, on c'est pas une thérapie. Est-ce que des fois tu vois ça quand même, ou est-ce que, en tout cas, originellement, c'est ce que toi tu es plus dans l'action, dans le futur désiré, dans le pour espace quoi?
Oui, mais
Est-ce
ça n'empêche
que,
pas de
ouais.
ramener en effet aux valeurs, tu sais, aux valeurs qui sont
D'accord,
en jeu.
ouais.
Lorsqu'on a une pratique réflexive pour se regarder aller, ben là, on essaie de comprendre peut-être qu'est-ce qui fait que j'agis de cette façon, quelles sont les valeurs qui sont en jeu, quelles sont mes intentions que j'ai pour agir, et à la base des intentions, qu'est-ce qu'il y a aussi en dessous. Mais je propose de moins orienter l'analyse là-dessus que sur les options qui se présentent
Est-ce que là,
là-dessus.
on serait dans ces trois différents niveaux dont tu parlais avant, léger, courant, intégral, avancé? Est-ce que dans l'intégral avancé, on est plus justement peut-être dans cette recherche plus profonde de valeurs, de genre de...
Ouais, mais pas que. On va être aussi peut-être plus sensible aux dimensions émotives, en jeu vécu dans le processus. On va être davantage en présence attentive. On va par ailleurs aussi peut-être aller chercher un peu plus dans les modèles d'action, dans les paradigmes, dans une démarche un peu plus poussée, investie davantage. Et le co-développement ne sera pas à ce moment-là que presque une rencontre mensuelle avec un groupe de pairs avec lesquels on réfléchit, mais il y a une démarche continue qui va être mise en branle. Ce qui est encouragé aussi dans l'approche normale, je dirais, mais peut-être beaucoup moins que ce qu'on ferait dans un groupe intégral et avancé.
Ok. Une démarche continue, tu penses à quoi ? Est-ce que c'est en dehors du groupe de co-développement ? Comment est-ce que je continue à maturer, j'ai envie de dire ?
Oh oui, quand est-ce que mon sujet me porte ou le sujet de l'autre me porte, on pourrait continuer à échanger ensemble en groupe, tu sais, en asynchrone, par exemple.
Ouais, bah j'allais, d'accord.
Ouais, ou à encourager des lectures, aller plus loin, revenir sur le sujet.
Bah, justement, tu parles dans ton livre de l'ICODEV et il y a cette notion d'asynchrone, donc que tu commences un petit peu. Alors c'est, je crois que c'est pas très long dans le livre, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu perçois peut-être le futur?
Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas le futur. Justement, je vais partir pour voir en disant que le co-développement à distance, pour moi, n'est pas le futur du co-développement.
Okay.
Mais par contre, il a quand même assez bien servi au présent. Et dans les événements récents que l'on a connus avec la pandémie, il nous est apparu assez tôt important de reconnaître qu'il pouvait se faire des choses intéressantes en co-développement à distance. Parce qu'on hésitait à y aller, considérant que le contact humain n'est quand même pas identique, que la technologie était il y a quelques années pas si fameuse que ça. Déjà maintenant, on a un sentiment de présence beaucoup plus grand dans les réunions à distance que l'on avait il y a quelques années à cause des problèmes même de connexion qui sont en voie d'être résolus. Je dis le co-développement, c'est le numérique ou le distanciel permet de faire des choses, de garder le lien, mais jamais, à mon avis, on atteindra la même sentiment de présence, de continuité que celle que l'on a en physique, en présence physique.
Mais est-ce que, alors, tu parlais d'asynchrone, de synchrone, est-ce que vous commencez avec justement ce qui s'est passé pendant cette année 2020 ? Il y a des autres façons de faire ? Là, on a les 6 étapes et je dirais en présentiel, on les suit d'une manière assez, j'ai envie de dire stricte, mais voilà, précise.
Ouais.
Est-ce qu'en ICODEV, il y a des choses différentes ?
Ah non,
vous percevez aujourd'hui ?
C'est facile de le faire, c'est encore peut-être plus facile même de. Il y a une partie du rôle de l'animateur qui est plus facile en co-développement à distance. Il y a cette capacité de couper les micros, il y a cette façon de demander le tour de parole qui est un peu plus facile à animer que lorsqu'on le fait en présence. Il y a cette impossibilité qui est aussi un inconvénient, mais c'est une impossibilité d'avoir des conversations en aparté, sauf dans la zone de clavardage, il y a quand même quelque chose qui va être différent de ce côté-là. Donc, il y a une facilité, à mon avis, plus grande de suivre les étapes, une possibilité de capter certaines informations écrites et partager, en effet, dans le clavardage, ou partager des écrans qui...
Le clavardage, c'est la petite... C'est quoi, le clavardage? C'est le chat?
Le chat.
Le chat, ouais. OK, d'accord.
Comme vous dites,
clavardage.
Comme vous dites, le chat.
OK. Tu mettais dans le livre une idée, je ne sais pas si c'est une idée ou si c'est des choses qui se font déjà beaucoup, peut-être du client qui fait son exposé en asynchrone.
C'était une idée où je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait utiliser différemment maintenant cet espace à distance. On l'utilise quasi uniquement sur le modèle de la réunion classique que l'on tient en ligne. Alors, je me disais, y aurait-il d'autres façons de faire? Comme par exemple, en effet, le client qui prépare son cas, et qui le note, s'enregistre et s'assure d'utiliser bien son temps pour le présenter. Et ce qui pourrait faire qu'on pourrait peut-être traiter plus d'un cas en simultané, parce qu'on recevrait 2-3 cas qu'on pourrait traiter différemment. Donc, une partie pourrait se faire en synchrone, puis une partie pourrait se faire à distance, en se laissant le temps de réfléchir avant de proposer d'avancer des propositions aux clients.
D'accord. Et ça, c'est encore des idées. C'est pas des choses que vous faites déjà beaucoup,
non,
un petit
non,
peu
pas
peut-être.
Non, j'ai pas du tout testé. C'est vraiment,
okay.
une idée qui. Mais l'idée, c'était d'explorer les possibilités autres du numérique, donc la synchrone, qui est quelque chose qu'on n'a pas du tout utilisé. Alors qu'au départ, le numérique, dans les années 2000, les groupes de discussion qu'il y avait étaient complètement en asynchrone. On n'avait pas des possibilités de tenir en ligne des réunions, ça ne fonctionnait pas.
Et c'est génial parce que ça boucle bien avec ce que tu disais au début, l'intention c'est de discuter aussi. Enfin là tu nous poses ça, c'est presque une proposition que tu fais en disant tiens pourquoi pas faire évoluer, enfin évoluer je ne sais pas mais...
Expérimentons, voilà. Moi je définis toujours les gens qui sont en co-développement comme des praticiens chercheurs. Uh-huh. Alors un praticien chercheur, c'est ils profitent du co-développement comme une forme de laboratoire pour aborder des sujets qu'ils n'oseraient pas aborder ailleurs, expérimenter des façons différentes de faire. Et faisons-le aussi en co-développement. Et même au sein d'un groupe, on peut expérimenter une façon de faire. Ah, tiens, faisons-le en mode cours aujourd'hui, on verra bien ce que ça nous donne. Faisons-le et qu'est-ce qu'on a appris de cette façon de faire que l'on fera différemment ou pas la prochaine fois.
Après, discutons-en, quoi. C'est chouette. Hein. Ouais. Tu parles même d'intelligence artificielle. Enfin, je trouve que moi, tu te projettes.
Oui, j'imagine. Je me questionne en fait sur l'intelligence artificielle d'une part, avec les enjeux de confidentialité qu'il pourrait y avoir, parce qu'on sait que certaines conversations peuvent avoir été captées sur les réseaux Internet et analysés. Donc, quels sont les impacts, quels sont les points de vigilance à y avoir de ce côté-là, mais aussi est-ce que l'intelligence artificielle nous permettrait de traiter des sujets et de voir ce qui se dégage comme forme de façon de travailler, façon d'apprendre ensemble, façon de réutiliser des solutions qui ont été proposées par les uns par les autres. C'est un tout nouveau monde à explorer. On n'a aucune idée vers quoi ça va nous mener.
Super, c'est vraiment intéressant.
Et j'ajoute juste à vous d'ajouter sur le numérique qu'on a vu apparaître durant la pandémie, en même temps quelque chose d'assez formidable avec le numérique, les gens qui ont fait du co-développement solidaire. Ouais, donc, avec l'idée de dire, on rend le co-développement disponible, on anime des séances gratuitement, on s'est réunis ensemble pour traiter des sujets qui nous intéressent et pour créer quelque chose de nouveau et en toute générosité les uns avec les autres.
Ah, génial. Et ça me fait penser à un peu le périmètre. J'allais te poser cette question du périmètre, parce que là, c'était même pour des soignants. C'est ce qu'on a vu, non, sur le co-développement solidaire, c'est OK, on se met à parler ensemble entre soignants aussi. Aujourd'hui, le co-développement, pour toi, il peut être utilisé partout, par tout le monde, ou est-ce qu'il y a quand même encore une zone où on se dit ça colle pas? Alors, aussi dans la problématique peut-être, ma question est un peu difficile peut-être, mais est-ce qu'à un moment tu dis non, là, il ne faut pas faire de codev?
Faut pas faire de codev si les gens ne sont pas en confiance de travailler ensemble. Il faut pas faire de codev avec ce groupe et peut-être une personne qui n'est pas à la bonne place ou plusieurs, où on n'a pas créé le bon groupe et la bonne dynamique. Je pense qu'il y a ça à regarder en premier. Ensuite, est-ce que les gens, les participants croient qu'ils vont pouvoir apprendre les uns des autres? Est-ce qu'ils vont s'investir dans ce groupe suffisamment? Quelqu'un qui vient jamais au sein du groupe va avoir des effets négatifs, même par son absence, parce qu'on l'espère. Il y a plusieurs éléments sur la constitution et le fonctionnement du groupe. Maintenant, sur les sujets, bien sûr, si on est dans une organisation avec des gens qui auront des sujets qui sont en compétition l'un avec l'autre, c'est peut-être pas l'endroit où on va pouvoir les exprimer de peur des enjeux qui vont suivre par la suite. Mais en même temps, il y a des gens maintenant qui font du co-développement avec des enfants, avec des adolescents. Il y a des groupes de femmes qui font du co-développement sur leur réalité de femmes, des groupes d'hommes aussi qui ont été constitués dans la même foulée. Quelqu'un m'a parlé récemment qu'elle va expérimenter des groupes de co-développement avec des couples.
Oui.
Et ça, j'ai hâte de voir parce que j'ai déjà vu ça dans des organisations où les deux porteurs de dossiers étaient participants, où un chef et son collaborateur ensemble ils présentaient et des binômes comme ça étaient réunis au sein du groupe. Ça allait. Il y avait pas nécessairement d'impact dans la vie privée. Mais avec des couples, il faut vraiment voir dans quelle mesure on est assez solide pour entrer dans la thérapie de couple. Là, que les deux clients aient autant raison un que l'autre. Il ne s'agit pas de débattre de leur sujet à eux pour leur donner des munitions ou pour régler leurs enjeux, leurs conflits personnels, interpersonnels.
Et ça me fait penser à ce que tu me disais avant d'enregistrer, et après je vais devoir te laisser partir avec mes trois questions, c'est que tu sors un livre en fin du mois d'octobre, donc là, bientôt, au Québec, tu ressors le même livre, mais avec une partie, ce que tu me disais, hein, si j'ai bien compris, rajoutée sur un focus éducation. Alors qu'en France,
En fait, la version québécoise comporte des cas d'ici, des cas du Québec ou d'Amérique surtout, avec quelques cas que j'ai conservés de la version
Des cas,
française,
ouais.
mais il y en a quand même pas mal plus, et dont une section qui porte en effet sur co-développement en éducation, ainsi qu'un
D'accord.
autre en association et l'autre en organisation. Et donc, parce qu'en éducation, l'éditeur français dans la collection où le livre s'inscrivait, c'était pas, il n'y avait pas un intérêt pour aborder ce sujet. Mais ici, mais comme chez vous aussi, là, il se fait beaucoup de co-développement déjà dans le médico-social ou dans
Ouais.
le monde de l'éducation, mais souvent sous la forme d'analyse de pratiques professionnelles. Il y a quand même beaucoup de ressemblances
Oui.
et de proximité entre les deux pratiques. D'ailleurs, j'en traite
Dans le
aussi
livre.
dans l'ouvrage parce qu'on a intérêt à partager davantage, à converser les deux méthodes ensemble.
Génial. Donc, tu es vraiment dans l'invitation à faire évoluer encore le co-développement, enfin, à
Oui,
évoluer
oui.
ensemble. Ah, c'est génial. OK. Écoute, je vais te laisser partir. Je te pose juste mes trois questions et je te libère. Je vais te reposer. Si des gens ils veulent te contacter, le plus facile, ou est-ce que c'est quoi, c'est LinkedIn? Est-ce que tu as autre chose que tu.
Oui, ben c'est facile sur LinkedIn. Sinon, j'ai une adresse courriel champagne.codeveloppement@gmail.com.
OK.
Mais aussi avec les éditeurs en France, Erol, et au Québec, les presses de l'Université du Québec.
Ok, je mettrai tout ça dans la description du podcast. Est-ce que tu as une ressource que tu aimes conseiller, partager? Un livre ou autre chose?
Ah, c'est une bonne question, ça. Si, là, je suis dans l'autopromotion, donc je vais conseiller mon livre.
Que je conseille aussi. Après, c'est vrai que tu. En plus, alors je disais à quelqu'un que c'est une synthèse de beaucoup de choses aussi sur l'intelligence collective, parce que tu regroupes beaucoup de penseurs, j'ai envie de dire, de l'intelligence collective. Et moi, j'ai trouvé ça mais d'une richesse. J'ai des notes partout, partout,
Ouais,
partout,
ouais,
partout.
ouais.
Et pas que le co-développement, quoi. C'est vraiment intéressant comme tout. Hein. Ouais.
Mais par contre, il y en a aussi d'autres qui font ça et d'autres dont j'ai pris connaissance récemment, dont un livre de Denis Christol qui vient de sortir, qui traite de méthodes d'intelligence collective, et l'avoir connu avant, ce livre, j'en aurais parlé dans le mien. Mais j'ai pas de livre que je suggère comme ça spontanément. C'est toujours selon un besoin. Mais s'il y en avait un qui me vient à l'esprit comme ça, c'est un vieux livre que j'ai lu il y a plusieurs années. Ça s'appelle Esprit zen, esprit neuf. C'est sur la pensée de Suzuki, qui est cette invitation à regarder toujours les choses avec justement en présence attentive, mais avec curiosité.
Esprit zen, esprit neuf, super. Merci beaucoup. Je ne connais pas. Merci. Est-ce que tu as une valeur qui te porte? Quelque chose qui, le matin, te met en
Ouais,
mouvement?
il y en a beaucoup, mais peut-être celle qui m'apporte le plus, c'est le désir de faire de mon mieux. C'est pas vraiment une valeur, mais en tout cas, c'est
C'est très bien.
une motivation très présente chez moi.
Génial, apprentissage, ok. Est-ce que tu pourrais nous partager ta définition de l'intelligence collective? Celle-là, elle est un peu difficile.
Ah, celle-là, elle est difficile. Ouais. Puis en fait, je suis un peu confus parce que même dans le titre de mon livre, je parle d'intelligence collective, que je ne décris pas tant que ça dans l'ouvrage. En soi, j'ai personnellement un certain malaise avec la notion d'intelligence collective, faut le reconnaître, c'est un concept qui a été importé de l'intelligence individuelle et psychologique. Puis même l'intelligence elle-même, individuelle, n'est pas facile à camper. Binet disait, l'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Mais bon, ceci dit, on n'a rien dit. En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout dans l'intelligence collective, c'est ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour activer quelque chose lorsqu'on est en collectif, pour être un peu plus intelligent ensemble. Donc, avoir un but commun, mobiliser les énergies, partager, être connecté les uns avec les autres pour aller chercher donc des conditions optimales de fonctionnement en groupe. Parce que un groupe, ça peut être tout à fait intelligent comme ça peut être à l'inverse de l'intelligence. Donc, c'est tout moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on doit mettre en place pour activer et optimiser le fonctionnement du groupe. Et je crois fermement qu'à plusieurs, mais on peut faire beaucoup plus généralement que ce qu'on ferait seul.
Super. Et le co-développement est un des outils, c'est ça? Enfin, tu es vraiment dans ce truc de dire
Un des outils,
un des
exactement.
outils, c'est super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce super partage. J'ai passé un super moment et j'espère que les auditeurs aussi. C'était vraiment, vraiment, vraiment
Merci.
chouette.
Merci beaucoup, Sophie.
On
Ce
va
fut très
te.
agréable.
On va te laisser partir. Merci pour tout. Bonne journée, parce que je crois que il est 11h.
Il y a 6h de différence. Il est 10h aussi.
Il est 10h. Ah, d'accord.
Oui.
Bon, t'as encore un peu de boulot avant d'aller manger.
Oui, tout à fait.
Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt.
C'est gentil, je te remercie beaucoup et bonne continuation.
Merci Claude pour ce magnifique moment. Une petite demande importante à vous qui avez également apprécié cet échange. Si vous avez un iPhone à côté de vous, gardez-le sous le coude quelques secondes, restez dans l'appli podcast et laissez-moi s'il vous plaît un avis 5 étoiles. Cela vous prend quelques secondes et me permet moi de continuer à recevoir des invités ultra inspirants comme Claude aujourd'hui. Merci à tous, ciao !